On va parler un peu feu et comportement au feu du bois. Donc en gros, le bois, quand il est soumis à une attaque de feu, donc il y a un processus qui se passe en fonction de la montée en température. Et comme c'est décrit ici, vous avez plusieurs phases. Donc entre 40 et 100, 120 degrés, vous avez une phase de séchage puisque le bois qui est mis en œuvre, il a toujours un minimum d'humidité. Donc par exemple, si on prend un intérieur comme ici, chauffé, etc., il va s'équilibrer peut-être à 12-14% d'humidité. Donc là, en l'occurrence, il va commencer à perdre cette humidité. Et également assez rapidement, de la résistance mécanique. Entre 100 et 300 degrés, vous avez une phase de pyrolyse qui commence à émettre des composés gazeux. Et à partir de 250-300 degrés jusqu'à 800 degrés, il y a la phase de carbonisation. Et c'est là que le bois s'enflamme en fait. Et la vitesse de carbonisation en général est comprise entre 0,7 et 0,8 millimètres par minute. Et puis après, vous avez une phase d'oxydation, donc c'est l'incandescence, c'est tout ce qui est production de braise, etc. C'est de 800 à 1100 degrés. Et puis vous pouvez voir que, donc sur l'image ici, on a cette. On a donc cette phase de couche de carbone ici, résultant de toutes ces phases dont on a parlé, qui fait office un peu de protection du bois. C'est un peu comme l'image de la bûche que vous avez peut-être déjà vue dans une cheminée, qui au départ on a des flammes vives et puis petit à petit ces flammes se réduisent sur cette bûche puisqu'on a cette couche de protection qui fait que le bois après a une phase de carbonisation qui est à une vitesse assez lente finalement, en tout cas qui est connue. Vous verrez plus tard que vous entendrez parler de deux choses principales dans le bâtiment. Pourquoi il marche pas là? Vous avez la réaction au feu et la résistance au feu. Donc ici, on va parler rapidement de réaction au feu. Donc les règlements européens ont une classification qui permet de donner les propriétés d'un matériau par rapport à sa capacité à, comment on va dire, à s'enflammer, on va dire. Et donc vous avez plusieurs classes, du meilleur au moins bon. Donc si vous êtes 1, vous êtes incombustible, et F, c'est aucune performance, et puis E, voilà, c'est pas testé, etc. Donc le bois, lui, il est en général D. Et puis en accompagnement de cette lettre-là, vous avez tout ce qui est production de fumée et chute de gouttes et débris enflammés. Donc les matériaux ont des classements de réaction au feu. Donc si vous prenez par exemple la laine minérale, ça va être incombustible. Si vous prenez du bois, en général, il va être DS2, D0. Et ici, vous avez des tableaux qui permettent de faire la liaison entre les anciens classements français. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de M0, M1, M2, M3, donc ça en tout cas vous en entendrez parler. Mais normalement, on doit raisonner maintenant avec les classes européennes et il y a un espèce de tableau comme ça qui permet de faire un passage pour qu'on fasse le rapprochement si jamais on parle avec les anciennes classes. Ensuite, vous avez tout ce qui est résistance au feu, et la résistance au feu s'exprime à travers plusieurs comment on va dire plusieurs caractéristiques. Donc déjà, il y a la propriété à résister au niveau structurel, donc ça c'est R. L'ancien classement, c'était stable au feu. Et donc là, c'est vraiment le fait, par exemple, si on a un mur ou une poutre qui est chargée, c'est sa capacité à résister structurellement à l'action du feu. Après, vous avez E, c'est l'étanchéité au feu. Ça va concerner les parois. C'est la capacité de la paroi à arrêter les flammes. Donc, l'anciennement, c'était le pare-flammes. Après, vous avez RE, c'est donc capacité portante et étanchéité au feu. EI, c'est l'étanchéité au feu, l'isolation thermique. Et puis après, vous avez REI. Donc ça, en fait, c'est la réglementation pour chaque bâtiment qui va avoir des exigences, soit en R, soit en E, soit en RE, EI, etc. Et on va adosser à ces caractéristiques-là des temps. Donc par exemple, on va vous demander qu'une poutre soit R30, ça veut dire qu'elle devra résister 30 minutes sous l'action du feu pour la destination qui lui est demandée. Donc par exemple, pour un plancher, elle doit résister 30 minutes en situation feu sans s'écrouler. On va vous demander un R30, et puis si on vous demande un REI30, ou 60 ou 90, donc c'est que l'élément, que ce soit une paroi, une poutre, un plancher, doit avoir une capacité portante de 60 minutes par exemple, une étanchéité, une isolation thermique, etc. Ensuite, il y a les effets de la dégradation thermique. Donc comme on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs phases, hein, on ne va pas les répéter, et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'ici vous avez la courbe ISO de température, qui montre que le bois, lui, il va tout de suite commencer à perdre des caractéristiques mécaniques, mais par contre, ça va être assez progressif, et par rapport à l'acier aluminium, si vous voulez, par rapport à l'augmentation de température et dans le temps, il va afficher des performances qui sont meilleures en termes de prédiction notamment, puisque on sait que l'acier et l'aluminium très rapidement vont perdre toute leur qualité, ce qui fait que ce sont aussi des matériaux qui ne sont pas très bien adaptés à la sécurité incendie. Contrairement au feu, alors le feu, il a l'avantage justement d'être très prédictif et il a l'inconvénient d'être un matériau combustible, ce qui aujourd'hui inquiète un peu les pompiers quand ils voient toute la massification des constructions de bois qui se profilent. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que tout au long de la montée dans température du bois, donc jusqu'à ce qu'il y ait inflammation, vous voyez que les sollicitations compression, traction et cisaillement, que vous étudierez un peu plus tard, le bois ne réagit pas de la même façon, c'est-à-dire que très rapidement, il va perdre les caractéristiques mécaniques n'évoluent pas de la même façon en fonction de la montée en température. Jusqu'à présent, on ne tient pas trop compte de ces choses-là, mais c'est quand même intéressant quand on conçoit un bâtiment et qu'on a une partie feu à intégrer, de savoir qu'en cisaillement, en compression et en traction, on n'a pas les mêmes comportements quand on est exposé au feu. Et voilà, c'était juste pour le feu, je voulais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est quand même que... Donc là, on a parlé vraiment comportement au feu du matériau, et après, on verra dans quelle mesure, je pense que je vais voir ça avec Guillaume, on parlera de sécurité incendie, donc c'est pas la même chose, la sécurité incendie, c'est plutôt la stratégie qu'on va adopter dans un bâtiment faire en sorte que les gens puissent évacuer, que les pompiers puissent intervenir et que finalement on ait un immeuble qui reste debout malgré le feu, que le feu ait pris. Mais c'est un autre domaine qui inclut d'ailleurs la partie comportement au feu, mais c'est beaucoup plus vaste.
Oui, Guillaume vous montrera, Guillaume Turf, notre collègue, vous montrera au prochain cours l'aspect sécurité incendie. Okay. Et après, je vous montrerai au troisième cours comment l'approche simplifiée de calcul de l'Eurocode 5 pour vérifier la résistance au feu d'une poutre droite.
Voilà, on est sur les généralités, mais vous verrez plus en détail après. Et on va finir par l'impact environnemental dont on a déjà un tout petit peu parlé. Alors, il y a plusieurs façons de concevoir avec un faible impact environnemental, sauf que il n'y a pas 36 façons de mesurer en fait, parce qu'à un moment donné, le problème c'est qu'entre 10 personnes différentes, on aurait peut-être 10 réponses différentes selon les ressentis, la philosophie, etc. Et donc il a bien fallu normer tout ça, et aujourd'hui ce qui permet quand même de comparer deux approches environnementales sur la conception d'un ouvrage ou sur l'utilisation d'un matériau, c'est le recours à ce qu'on appelle l'ACV, c'est l'analyse de cycle de vie. Ça, vous en entendrez, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais vous en entendrez de plus en plus parler. Donc, c'est quoi? En gros, c'est étudier quel est l'impact environnemental d'un produit, d'un ouvrage, depuis la ressource jusqu'à la fin de vie. Alors, on commence par les matériaux. Donc, ça veut dire que les matériaux, alors déjà dès à présent et encore plus dans le futur, vont avoir comme une sorte de passeport environnemental, qu'on appelle une FDES, s'appelle la fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Cette fiche est établie à partir de l'analyse de cycle de vie. Donc, chaque matériau, chaque produit de construction va avoir son petit passeport. Et dans ce passeport, il y a plusieurs indicateurs. Dont celui qui est alors vous voyez tous les indicateurs ils sont décrits ici hein, donc vous avez la consommation des ressources énergétiques, l'épuisement des ressources naturelles, consommation d'eau, etc. Et celui qui va nous intéresser le plus, c'est celui du changement climatique. Changement climatique, il va être exprimé en CO2 équivalent. Et en gros, c'est l'impact de chaque matériau et ouvrage sur les gaz à d'émissions à effet de serre. Et qu'on a, comment on va dire, dont on met le, dont on prend comme unité le CO2 équivalent, parce qu'il y a plusieurs gaz qui sont néfastes, mais le plus néfaste c'est le CO2, et on a retenu cette unité-là pour exprimer pour mesurer l'effet du changement climatique. Donc en fait, chaque matériau produit de construction vont avoir normalement leur FDES avec tous ces critères qui seront renseignés d'un point de vue avec des unités, et donc ça et des unités, oui, et puis ça va permettre de les comparer entre eux. On va voir ça juste après. Une fois qu'on a tous les matériaux et tous les passeports, après on va concevoir un ouvrage et ça va permettre en additionnant, avec une petite calculette Excel, hein, qu'une fois qu'on a rentré tous nos matériaux, on aura l'impact environnemental final de l'ouvrage. Et ce qui va permettre après d'agir plus ou moins sur telle partie d'ouvrage, tel matériau, etc., etc. Voilà, donc retenez que l'ACV, c'est la méthodologie pour mesurer l'impact environnemental des produits, et que la FDES, qu'on va voir juste après, c'est ça, c'est en gros le résultat de l'ACV qui permet de mesurer l'impact environnemental des produits. Alors ici, c'est sur, voilà, j'ai mis produit ou bâtiment, enfin un ouvrage, avec, vous allez voir, plusieurs étapes. Donc vous avez la production, l'étape de la production, le processus de construction, l'étape d'utilisation, la fin de vie. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est réglementairement analysé, enfin pris en compte. Et depuis assez récemment, en dehors de ce système-là, on a mis en place aussi, à titre informatif, au-delà de la vie du bâtiment, est-ce qu'il peut y avoir un gain ou pas par rapport à certains matériaux? Et donc, on va aller voir tout de suite comment ça s'exprime. Alors, comme je vous ai dit, l'analyse de cycle de vie, c'est une méthodologie qui est normée. Alors, c'est des normes NFEN 15804 et 15978 pour les produits, les bâtiments. La réalisation des FDES porte sur un produit de construction et elle peut être collective ou individuelle, c'est-à-dire qu'un industriel peut, pour chacun de ses produits, faire des FDES à son compte. Et après, il peut aussi y avoir des industriels ou des artisans qui se regroupent, parce qu'ils ont des produits qui sont très semblables et qui font une FDES collective. Et les plateformes de référence pour aller télécharger ces FDES, c'est en gros, vous avez la base Ignies, vous avez la base DE Bois, la base Betty pour les produits béton et le CTICM pour les produits en acier. Alors, les objectifs avec les ACV, c'est pouvoir, comme on a dit, comparer les matériaux selon un même référentiel. On peut arbitrer au niveau de la conception, on peut répondre à la future réglementation RE2020, j'y viendrai juste après, et surtout, on va aller chercher des labels, puisque de plus en plus, les maîtres d'ouvrage demandent à afficher des labels, et donc pour ça, il faut qu'on utilise les ACV, les FDES. Alors, si je prends l'exemple d'un panneau de CLT qui est fabriqué en France, vous voyez que déjà dans la FDES, vous allez avoir pas mal d'informations qui vous donnent un peu les hypothèses qui ont été prises pour faire l'ACV et ben, qui sont dans la FDES forcément. Donc déjà, vous avez une durée de vie ici qui est de référence qui est 100 ans. Ça, c'est important parce que toutes les FDES n'ont pas la même durée de vie. Donc après, il faut aussi faire une interprétation entre les FDES. Après, bon, je vais pas tout passer en revue, mais après, ce qui est aussi important, c'est l'unité. Donc ici, je vais juste revenir un coup en arrière. L'unité, normalement, c'est le mètre cube. En général, dans le bois, c'est le mètre cube. Je sais pas si je l'ai souligné quelque part. On le voit peut-être pas là. Normalement, c'est écrit quelque part. L'unité, c'est le mètre cube. Mais bon. Donc retenez qu'ici, bon, c'est par mètre cube, on va exprimer des critères, des unités par mètre cube de bois. Et ici, vous pouvez déjà voir que la quantité de stockage de carbone biogénique, c'est 716 kg équivalent CO2 par unité fonctionnelle. Donc l'unité fonctionnelle, c'est le mètre cube. Donc ça veut dire que on considère que le bois, le carbone biogénique, c'est le carbone qui a été stocké pendant la croissance de l'arbre. C'est environ 716 kg équivalent de CO2. Sur une durée de stockage de 100 ans. Donc, bon, ben, on a un crédit carbone de moins 613. Vous allez voir après comment on le calcule à partir du moment où on a intégré sa transformation. Donc, je vais tout de suite aller. Alors, ça, c'est ce qu'on a déjà dit, que un mètre cube de bois rond, c'est à peu près une tonne de CO2 équivalent stocké, et une fois transformé, le bois, c'est environ 610 kg de crédit carbone. Donc, ça, je vais le passer, c'est les normes, etc. Et donc, si on prend les résultats de la FDES, vous voyez que, par exemple, quand on prend le premier critère, le potentiel de réchauffement global, exprimé en kilogrammes CO2 équivalent par unité fonctionnelle, c'est-à-dire par mètre cube, quand on arrive à la fin de la première phase, qui est la production, on a un crédit de 607 kg par mètre cube. Ensuite, quand vous regardez le transport, l'installation, ben, vous avez une certaine quantité de CO2 qui sont réémis. Donc vous voyez que le transport, finalement, c'est pas énorme. Après, il faut bien regarder le périmètre, c'est-à-dire que le transport, ben, il faut voir qu'est-ce qui a été pris comme hypothèse. Et alors là, je sais plus, je crois que c'est 300 km à peu près autour de l'unité de production. Donc si ça vient de plus loin, il faut aller chercher la FDES du fabricant. Et comme ça, certainement, au niveau du transport, vous aurez un peu plus. L'installation, vous voyez que c'est pas grand-chose non plus, puisque finalement, on utilise des grues à tours, des choses plutôt électriques, etc. Donc il n'y a pas énorme en impact. Donc au niveau construction, bah finalement l'impact il n'est pas énorme. L'utilisation c'est rien puisque bah une fois que le bâtiment vit, il n'y a plus de transformation du bois, donc on n'utilise pas d'énergie pour le transformer à nouveau, donc pas d'émission de CO2. Par contre, en fin de vie, le problème c'est que bah, entre la déconstruction, il y a un petit peu de transport, mais surtout le traitement des déchets, l'élimination, etc. On réémet quasiment tout. Et puis bah finalement vous voyez que de A à C on a 99, on remonte à 99, donc normalement réglementairement parlant on s'arrête à cette zone là et ça veut dire que quand on met du CLT, une dalle de CLT en œuvre, au final on considérerait qu'on est à 100 kg de CO2 équivalent par mètre cube d'émission de gaz à effet de serre. Si on va au-delà de la frontière qui a été aujourd'hui jusqu'à présent reconnue. C'est-à-dire que si on considère ce qu'on peut faire en termes de réutilisation, récupération et ou recyclage, eh ben, on retombe en négatif parce que, ben, finalement, on améliore la fin de vie du matériau, ce qui n'est pas pris en compte jusque-là, puisqu'on considère que le bois est généralement enfoui ou brûlé et donc réémet la totalité du CO2 stocké. D'où l'importance de développer des filières de réutilisation, récupération pour pouvoir valoriser et dire qu'en fait, quand on met du bois en œuvre, on va stocker bien au-delà de 100 ans du CO2. Alors ça, c'est pour, par exemple, du CLT. Et maintenant, si je prends, alors j'ai essayé de prendre quelque chose de comparable, parce que là aussi, il ne faut pas se tromper et pas comparer des choses qu'on ne peut pas comparer. Donc, si je prends une dalle pleine en béton d'épaisseur 20 cm, qui est en béton C25, C30, qui est quelque chose d'assez classique. Je prends la FDES de ce produit. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait là? Donc là, on est sur 100 ans également, donc on est bon. Par contre, vous voyez qu'on est sur 1 mètre carré de surface pour 20 cm d'épaisseur, alors que pour le bois, on était sur 1 mètre cube. Donc en fait, il faudra multiplier par 5 les résultats de cette FDES pour pouvoir comparer avec le bois, c'est-à-dire 1 mètre cube de béton et pas juste 0,2 mètre cube en fait. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Alors ici, on a des hypothèses sur la distance par rapport au chantier, etc. Bon, bref, je vous laisserai lire tout ça. On va aller tout de suite aux résultats, parce qu'on n'a pas trop de temps. Donc ce qu'on voit, c'est que... alors, je ne les connais plus par cœur. Là où le béton est le plus impactant... je vais plutôt lire ici, parce que je ne vois pas trop. Donc bah oui, forcément, là où le bois était négatif, là on est forcément positif, hein, et puis on va avoir du béton un peu partout, enfin en émission un peu partout, sauf là apparemment dans la construction, puisqu'il est dit que le béton absorbe une toute petite partie du CO2 au moment où il sèche. Bon, ça je connais pas exactement le détail de cette chose-là, mais bon, c'est infime. Et puis, si on continue dans les différentes étapes, on va arriver au final, à total du cycle de vie, à 52 kg équivalent CO2, mais pour 0,2 m3. Donc, il faut multiplier ça par 5 pour pouvoir le comparer au bois. Donc, on va être à environ 250 kg équivalent par m3, alors qu'en bois, on était à 100. Donc vous voyez qu'on est quand même un peu mieux en bois, même si finalement, quand on compare deux choses équivalentes, on est peut-être pas si loin que ça non plus. Mais par contre, le plus important, c'est ça, c'est-à-dire que dans la partie au-delà de la frontière, on peut ne valoriser qu'à moins 2, alors que le bois, on est beaucoup plus vertueux. Donc tout ça pour vous dire que... le bois, c'est quand même vertueux, évidemment. Après, c'est pas non plus miraculeux dans le sens où si on fait pas attention à ce qu'on fait, on peut aussi très vite réémettre du CO2. Mais en comparant béton-bois, on arrive quand même à faire des choses un peu... on arrive à diminuer l'impact carbone de la construction. Et alors maintenant, j'espère que ça vous va pas trop vous embrouiller, avec la nouvelle ARE 2020, donc vous avez peut-être entendu parler, c'est la nouvelle réglementation pour la construction des bâtiments. On a introduit la notion d'ACV dynamique, donc c'est l'analyse de cycle de vie dynamique, c'est-à-dire que on va aller regarder la temporalité des émissions et les effets du stockage de carbone. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des gaz à effet de serre, ils sont émis à certaines périodes de la transformation des matériaux, etc. Et ils n'ont pas tous le même impact dans la durée de vie. Donc le plus important, c'est le CO2, bien évidemment. Et vous aurez compris que plus un matériau stocke en début d'entrée de transformation, et mieux ça sera, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est justement à gagner du temps. Donc le bois et les matériaux biosourcés ont forcément un avantage, ce qui fait que dans le futur calcul, qui est déjà opérationnel maintenant, on va donner à tous les matériaux biosourcés, à tous ceux qui sont capables de stocker très vite du carbone, un coefficient favorable. On va voir comment ça se traduit. Donc là, vous avez la même chose pour les fluides, mais sinon, nous, on regarde le coefficient qui est la courbe bleue. Et on va voir que, alors ça, c'est un petit récapitulatif qui dit que, par exemple, une émission à l'année 0 sera affectée du coefficient 1, alors qu'une émission à la 50e année sera affectée du coefficient 0,58. Donc on a vu que le bois, lui, va plutôt réémettre en fin de vie. Et c'est pour ça qu'on va lui affecter un coefficient de 0,58. On va voir comment ça se traduit. Donc si on regarde aujourd'hui, on est dans ce cas-là. Ce que je vous ai montré, là, les différentes étapes de l'analyse de cycle de vie, on arrivait, alors là c'est une poutre en bois, Vous voyez qu'au final, on était à peu près à 130 kg équivalent par mètre cube émis. C'est à peu près comme le CLT, vous voyez. Par contre, avec la RE 2020, ce qui va se passer, c'est que on va avoir les mêmes étapes, là, à peu près. Sauf qu'au niveau de la réémission, la fin de vie, on va affecter un coefficient de 0,58 qui va faire qu'on sera moins impactant et qui va faire en sorte que le bois va bénéficier de ce coef par rapport aux autres matériaux. Et c'est ce qui fait que, tout à l'heure, je discutais avec un d'entre vous, les matériaux biosourcés et bas carbone vont être de plus en plus utilisés et demandés dans la construction par rapport à cette notion-là et par rapport au fait que c'est réglementaire. Voilà. Donc ça, c'est le petit explicatif. Et puis, on a fini. Voilà. Merci pour votre attention.